La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous, je suis Florence Vanquali, pasteur de l'Église évangélique libre de Toulouse et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle prédication protestante. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? De quoi parle-t-on? C'est un thème central dans la prédication de Jésus. Changez, car le royaume de Dieu s'est approché. Et puis, à d'autres moments, regardez à quoi ressemble le royaume de Dieu et arrive alors une parabole comme celle du grain de moutarde, par exemple. Cela dit, malgré toute cette insistance dans la prédication de Jésus, nous sommes parfois confus devant cette idée du royaume de Dieu. Et c'est normal. Même les proches de Jésus, ses disciples, avaient du mal à comprendre. Jusqu'au bout, jusqu'en ce jour de l'ascension où Jésus quitte leur compagnie pour rejoindre Dieu le Père, jusqu'au bout, les disciples ont du mal à comprendre, alors même qu'ils ont passé près de 3 ans avec lui. Jésus clarifie, mais ses explications ne vont pas aller dans le sens que les disciples imaginaient. Alors je vais lire le récit habituel de l'ascension, ce récit de la montée de Jésus au ciel, situé au début du livre des Actes, ce livre qui est la suite de l'évangile de Luc. Je lis donc les premiers versets du livre des Actes. Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est-à-dire l'Évangile, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Et pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour que Jésus prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps, les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Dans ses derniers moments sur terre, Jésus se focalise sur le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu est roi, là où il règne en souverain maître. Mais manifestement, c'est un peu nébuleux et les disciples ne savent pas trop quoi faire de ce que Jésus leur annonce. Jésus parle de la venue de l'Esprit de Dieu sur les croyants, et c'est arrivé peu après cette discussion, un jour de fête juive, la Pentecôte, ce que nous fêterons dimanche prochain. Ce don accomplit une promesse ancienne qu'on retrouve dans les écrits du prophète Joël. Dans les jours où Dieu se manifesterait, il enverrait son esprit sur les croyants comme une connexion intime et personnelle avec lui. Il habiterait non plus dans un temple de pierre, mais dans le cœur de ceux qui lui feraient confiance. Et dans les écrits de Joël, cette promesse s'accompagnait d'une autre. Dieu allait restaurer son royaume. Pour le peuple d'Israël qui a perdu, à l'époque de Jésus, qui a perdu la souveraineté sur son pays, qui a perdu son roi, qui a perdu son temple, la restauration du royaume, c'est le rêve ultime. Imaginez par exemple un homme accidenté qui a perdu l'usage de ses jambes, la possibilité de se déplacer seul, la possibilité de travailler. Qu'imaginer de mieux que la guérison de ses jambes et la possibilité de retrouver sa vie d'avant? Mais Jésus montre que Dieu a autre chose en tête, qu'il a des projets bien plus grands que ce rêve-là, que ce rêve de la restauration d'un royaume politique. Jésus parle d'un royaume différent, un royaume spirituel, dans lequel on n'entre pas par un rite extérieur, comme par un baptême d'eau par exemple, mais par une connexion intérieure avec Dieu. C'est ce qu'il appelle le baptême de l'esprit. Alors ça ne disqualifie absolument pas le baptême d'eau, bien sûr. Mais celui-ci n'est pas le critère principal pour dire qui appartient à la famille de Dieu. Le baptême d'eau sert de signe visible pour dire aux autres que nous avons plongé dans une relation vivante avec Dieu, une relation spirituelle, profonde, intérieure, invisible, mais rendue visible par la plongée dans l'eau. Derrière le signe extérieur, ce qui compte, c'est l'adhésion intérieure. Le don de l'esprit, c'est ce qui fait naître cette adhésion intérieure. Et ce don de l'esprit, lorsqu'on le reçoit, eh bien, c'est l'inauguration d'un règne d'abondance. Jusque-là, on cherchait Dieu, on l'appelait à l'aide, on l'attendait. Mais maintenant, Dieu se rend présent en nous. Non seulement il nous donne le pardon et une nouvelle chance en Jésus-Christ, mais en plus, il vient habiter notre vie. Ce que Jésus promet aux croyants, c'est que nous n'aurons plus à chercher Dieu dans l'incertitude de le trouver. Parce que Dieu qui est venu à côté de nous en Jésus-Christ, vient en nous par l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il réponde à toutes nos questions comme on le voudrait, hein. Ça ne veut pas dire que tout devient magiquement facile, mais que la présence de Dieu nous imbibe jusqu'au plus profond de notre être. On passe du partiel, de l'extérieur, de la quête, à l'abondance et à la paix. Je prends une image. Imaginez que vous sortiez avec une jeune femme qui habite dans un autre pays. Vous vous aimez, alors du coup, bah, vous vous appelez autant que possible, mais les fuseaux horaires de vos pays ne sont pas très compatibles. Et on ne parle même pas des problèmes de connexion quand la vidéo bloque ou que l'appel s'interrompt 3 fois en 5 minutes. Pour vous voir, c'est encore plus compliqué parce que voyager coûte cher. Et encore, on est hors pandémie dans mon image. Mais un jour, vous vous retrouvez, vous vous mariez et vous commencez à habiter ensemble. Quelle différence ! Elle est là, tous les matins. Vous prenez votre café ensemble, vous échangez librement sur les détails de la vie, vous partagez le quotidien. Alors ça ne veut pas dire que tout devient miraculeusement facile, hein. Il faut quand même s'apprivoiser, faire des efforts, veiller à la communication. Il y a quand même des moments où on est fatigué, où on est peu disponible. Mais par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Eh bien, quand Dieu vient habiter notre vie par l'esprit, c'est un peu comme ça. Il y a des temps de dialogue, de silence, mais Dieu est toujours là, à portée de main. On en a l'assurance. Il est là pour nous, pour vous, il partage votre quotidien. Il vous montre son amour dans des petites, dans des grandes attentions, à chaque instant, dans le quotidien. Jésus promet aux disciples la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu lui-même au cœur de leur vie. Mais Dieu ne vient pas seulement nous rejoindre. Il n'est pas juste là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Il nous donne aussi un sens, un but, une orientation pour notre existence. Être témoin de Jésus là où nous allons. Témoin. Les disciples ont demandé quand le royaume d'Israël serait restauré, mais Jésus, lui, écarte la question. Connaître les détails de l'avenir n'est pas notre responsabilité. Mais c'est pas parce que nous n'avons pas à spéculer sur l'avenir que nous n'avons rien à vivre. Au contraire, même si nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, nous avons un présent à vivre dans lequel résonne cette vocation « Soyez mes témoins ». Les disciples, les apôtres, vont être des témoins uniques parce qu'ils sont les témoins oculaires de Jésus ressuscité. Ils l'ont vu de leurs yeux, comme dit Jean, ils l'ont touché. Mais nous, qui n'avons pas connu physiquement Jésus, nous sommes aussi témoins de ce que Dieu nous montre par son esprit, à travers Jésus. Nous n'avons pas la même autorité que les apôtres, mais nous avons quand même un témoignage à partager avec les autres. Alors le témoignage, ça réveille un certain nombre de conceptions, parfois même de stéréotypes, et ça peut nous faire un petit peu peur. Alors qu'est-ce que c'est être témoin ? Mais je crois qu'une notion importante dans le témoignage, c'est la notion d'authenticité. Montrer ce que nous vivons. Laisser notre relation intérieure avec Dieu renouveler notre quotidien, nos actes, nos paroles, nos pensées, nos désirs, nos valeurs. C'est exprimer la vérité de notre expérience avec Dieu, mais concrètement, voilà, qu'est-ce que ça change dans notre vie du quotidien ? Jésus va encore plus loin, cela dit. Il nous invite non seulement à montrer ce que nous vivons avec Dieu, mais aussi à le proclamer, à partager, à inviter ceux qui nous entourent à découvrir le Dieu qui nous fait vivre. Jésus parle du coup d'un peuple qui grandit sans cesse, hein. Quelques dizaines à son époque, aujourd'hui un bon milliard. Un peuple qui grandit sans cesse parce que nous ne cessons pas de proclamer la bonne nouvelle du Christ. Alors ça pourrait ressembler à du prosélytisme, à une démarche intrusive qui ne respecte pas les croyances de l'autre, qui est même en décalage avec la laïcité de notre pays. Ça pourrait même ressembler à quelque chose de suspect, hein, avec tout ce qu'il peut y avoir dans notre esprit qui s'associe ou qui associe le prosélytisme à la manipulation, à la pression, au manque de respect. Mais Jésus nous invite simplement à partager notre foi, à être témoin de ce que nous vivons avec Dieu dans le respect de l'autre. Comme lui a été témoin de Dieu parmi nous, devant nous, avec respect. Et Jésus l'a fait avec simplicité, avec générosité, toujours dans la gratuité. Et son seul intérêt, quand on regarde dans les évangiles, quand on regarde son attitude envers nous, son seul intérêt, c'était de nous faire partager la joie qu'il y a à vivre avec Dieu. Et c'est pareil, lorsque Jésus nous envoie être témoins à notre tour, c'est par joie. Quasiment tous, nous avons une passion. Certains, c'est la pêche, d'autres, la cuisine, les voitures, la moto, l'astronomie, le foot, la musique, la lecture, le scrapbooking, les animaux, voilà, les timbres, enfin, il peut y avoir mille passions. Et vous le savez, quand on branche quelqu'un sur sa passion, on ne peut plus l'arrêter, même le moins bavard. Tout simplement parce que sa passion le rend heureux. Mais être témoin, c'est être passionné par Jésus. Jésus, image parfaite de Dieu, Jésus, incarnation pleine et entière de l'amour de Dieu, qui s'est donné pour nous par amour, pour nous donner une vie vraiment libre. Libre du regard des autres, libre de la culpabilité, libre de la peur, libre même de nos défauts. Une vie où tout est possible parce que Dieu y habite. Il y a de quoi être passionné par Jésus. Alors si on parle de lui, c'est simplement parce qu'il nous passionne. C'est tout simplement pour partager ce qui nous fait vibrer avec d'autres, la paix, la joie, l'espérance que nous avons auprès de Dieu. Hein, ça rayonne du cercle fondamental de notre intérieur, petit à petit, jusqu'à toutes les dimensions de notre vie, dans toutes les relations que nous avons. Alors on le comprend bien, hein, le royaume dont parle Jésus n'est pas un royaume politique, avec des frontières, avec un chef humain. C'est d'abord un royaume intérieur, dans le sens où Dieu vient régner, habiter en nous. Ce n'est pas un cadre tout fait dans lequel je dois entrer, mais une relation vivante avec Dieu qui m'implique de la tête aux pieds. Et tous les gens, toutes les personnes qui reconnaissent Dieu comme leur Dieu, qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur, toutes ces personnes forment ensemble le royaume visible de Dieu. Hein, nous sommes, nous, quand nous sommes rassemblés et même quand nous sommes dispersés, nous sommes un petit morceau de ce grand royaume universel qu'est l'Église. Ce royaume n'a pas de frontières. Jésus dit bien aux disciples, qui n'ont pas compris tout de suite d'ailleurs, que le royaume de Dieu va déborder les frontières d'Israël. La lumière que Dieu donne, on ne peut pas l'empêcher de rayonner. Alors, c'est quand même à des Juifs que Jésus s'adresse à ce moment-là, à des Juifs qui se définissent, par définition, comme des membres du peuple élu, distants des autres, différents. Et c'est presque impensable pour eux d'entendre qu'ils vont devoir partager leur foi, partager leur relation avec Dieu, partager leur espérance, l'héritage d'appartenir à Dieu, avec les Juifs, certes, mais aussi avec les Samaritains, ce peuple bizarre, étrange, mélangé, ennemi du peuple juif depuis des siècles, et même au-delà, avec des païens, qui n'ont aucun lien avec le peuple juif. Nous avons par exemple dans le livre des Actes, cette histoire où l'apôtre Pierre témoigne de Jésus à un étranger, un soldat romain, Corneille, enfin un officier, et il découvre que dans la famille de Dieu, eh bien, il n'a pas de frontières parce que Dieu vient chercher Corneille et lui accorde les mêmes dons, le même salut qu'aux croyants qui sont d'origine juive. Dans l'Église, Jésus nous demande de changer de mode de fonctionnement. L'apôtre Paul aura la même prise de conscience que Pierre, hein. Tous, juifs et non-juifs, maîtres et esclaves, hommes et femmes, tous ont le même statut aux yeux de Dieu en Christ. Tous sont habités par l'Esprit, donc tous ont la même valeur dans l'Église. Qu'ils soient des membres historiques de la communauté ou des petits nouveaux, qu'ils soient des personnes bien vues socialement ou atypiques, qu'ils soient des personnes très engagées, consacrées même, ou des personnes un peu discrètes, tous ont la même valeur dans l'Église. Le seul critère, c'est leur appartenance à Jésus. Alors c'est très beau, hein, c'est très très beau de dire qu'on est tous égaux dans le royaume de Dieu. C'est très beau, mais ce n'est pas très confortable. Avec la différence, avec la rencontre, arrivent les malentendus, les cultures qui s'entrechoquent, la nécessité de s'adapter, de tester de nouvelles choses, d'abandonner des anciens fonctionnements pour trouver de nouvelles manières de vivre. Mais c'est là, dans cet échange un peu chaotique avec les deux Écritures, dans l'exploration des nouveaux horizons, c'est là que Dieu se manifeste. Imaginez si les disciples étaient restés à Jérusalem. Nous n'aurions sûrement pas connu Jésus. Nous aurions raté ce qui nous fait vivre. Heureusement que les disciples ont pris des risques. Heureusement qu'ils sont allés rencontrer les étrangers, les païens, qu'ils ont donné leur chance aux petits nouveaux. Heureusement qu'ils ont pris au sérieux cette invitation de Jésus. Grâce à eux, grâce à tous ceux qui leur ont succédé, nous pouvons partager le même héritage, la même espérance, le même salut en Christ. Juste avant de partir au ciel, Jésus laisse à ses disciples des paroles qu'ils ne décoderont que plus tard, la promesse d'une vie abondante avec Dieu et la responsabilité de partager cette abondance avec ceux que nous rencontrons. Jésus ne dit pas que ça se fera dans le confort et la tranquillité. Lorsqu'on lit la suite du livre des Actes, on le voit bien, il y a des persécutions, des procès, des diasporas. Mais c'est là, dans cet appel, dans cette abondance donnée qui nous envoie aussi, c'est là qu'est notre identité de chrétien, une identité donnée par Dieu lui-même. L'Esprit qui nous relie à Dieu, qui nous connecte à Jésus, cet Esprit qui nous donne une vie nouvelle, à expérimenter et à partager sans aucune restriction.
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué en calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Thank you. jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera leur pays.